50 euros pour une chambre.
500 euros par bed.
Voilà. Khana mein usi mein.
On est en offre ici.
Oui, il n'y a pas d'autre espace pour faire sécher nos vêtements. Ça ne sent pas bon, mais on n'a pas le choix.
On espérait tous qu'en partant travailler dans un autre pays, on pourrait se payer une maison et une voiture. Mais dès qu'on arrive, on se rend compte que ce rêve n'est qu'une illusion. C'est dur. Ma vie n'est que douleur. Vous savez ce que c'est la douleur? Ma vie n'est que souffrance.
L'exploitation de ces hommes profite à des entreprises qatariennes, mais aussi à de nombreux intermédiaires étrangers, bien souvent originaires des mêmes pays que les travailleurs.
La plupart des entreprises, même les plus grandes, dépendent de sous-traitants. Elles n'emploient pas nécessairement les ouvriers directement, mais demandent à d'autres sociétés de leur fournir de la main-d'œuvre, et c'est là que les abus apparaissent. Plus on descend dans la chaîne de production, plus il y a d'abus. L'argument utilisé parfois, c'est de dire « c'est la faute des employeurs, pas des autorités qatariennes. Ce n'est pas à nous de régler ça. » Mais c'est le gouvernement qui tolère cette culture de l'impunité.
Sous pression de la communauté internationale, le Qatar a annoncé des réformes. Introduction d'un salaire minimum de 250 euros, ouverture d'un bureau de l'Organisation internationale du travail. Et en 2020, les autorités ont aboli la kafala, la tutelle obligatoire pour les étrangers. Mais dans les faits, ces lois tardives sont loin d'être appliquées.
Le problème qu'on est en train de découvrir, c'est que la réalité ne correspond pas aux promesses. Les progrès n'ont pas été à la hauteur des nouvelles lois et la mise en œuvre est faible et inégale.
Si vous regardez le reste du monde, personne n'a un régime du travail parfait. Les progrès accomplis au Qatar en seulement 10 ans sont énormes.
Le Qatar, quand ils sont attaqués ou critiqués, au lieu de fermer les écoutilles, d'empêcher les critiques, ils ont tendance à entendre les critiques et à contre-attaquer en allant justement exactement là où on les critique.
Aucun pays n'est parfait. On a encore beaucoup à faire, mais cela prend du temps de s'améliorer et aussi que le reste du monde s'en rende compte.
Au milieu des années 2010, le Qatar est tellement concentré sur l'organisation de la Coupe du Monde et sur les réponses à apporter aux critiques qu'elle suscite, que la famille royale ne voit pas venir le projet de déstabilisation que ses voisins préparent en secret. D'autant plus que tout part d'une partie de chasse qui va mal tourner. Une chasse aux faucons, bien sûr.
En novembre 2015, un groupe de princes arabes, parmi lesquels des membres de la famille Al Thani, ont organisé un voyage pour chasser la houbara dans le désert. C'est une houtarde, une espèce de dinde très recherchée dans le Golfe, un mets rare. Ils ont quitté le Qatar à un convoi de 4x4 qui a traversé le désert jusqu'au sud de l'Irak et ils ont monté leur camp.
Ce groupe de fauconniers prend ce risque car la houbara a été trop chassée dans la péninsule arabique. Cette proie, recherchée pour de prétendues vertus aphrodisiaques, ne vit plus à l'état sauvage que dans des territoires reculés ou en guerre, comme la Syrie ou l'Irak.
Le séjour était censé durer environ 6 semaines. C'était une drôle de destination, mais ils étaient entourés de gardes armés et pensaient sûrement que cela suffirait à les protéger.
L'Irak, à ce moment-là, la zone où ils sont, c'est une zone qui est plutôt chiite, alors que les Arabes du Golfe sont sunnites, et c'est une région qui est contrôlée par des milices qui sont proches de l'Iran.
Un matin, des islamistes ont fait leur apparition au camp et les ont tous pris en otage.
La présence de membres de la famille royale fait grimper les enchères dans des proportions astronomiques. Cela multiplie les intermédiaires et groupes armés chiites qui veulent leur part de la rançon. Milices irakiennes, Hezbollah libanais et gardiens de la révolution iranien. Des groupes classés comme terroristes en Occident.
La question suivante se posait, est-ce politiquement malin de verser de l'argent à certains groupes ? Mais d'un autre côté, et c'est normal, il ne faut pas laisser tomber sa propre famille.
Ça va se terminer au bout de 18 mois de négociations, où un avion de Qatar Airways va finalement aller à Bagdad récupérer les types et ramener tout le monde, parce qu'en plus il y a des gens de la famille royale. Et d'après ce qu'on sait, le Qatar aurait payé 1 milliard de dollars.
Pour les Saoudiens, on aurait dit un transfert direct de la part du Qatar d'une énorme somme au profit de l'Iran. C'est le moment où ils se sont dit, on doit les arrêter, stopper le Qatar.
Pour l'Arabie Saoudite, le prétexte est parfait. D'autant plus qu'un nouveau prince a pris le pouvoir dans ce pays. Mohamed Ben Salman, dit MBS, rêve d'en découdre avec le Qatar. Et il a la bénédiction du président américain de l'époque, Donald Trump. Les Saoudiens et leurs alliés accusent Doha de financer des groupes terroristes, comme au temps du printemps arabe. Mais aussi de collusion avec l'Iran, le grand rival des Saoudiens dans la région.
La crise du Golfe a démarré en 2017.
Tout a commencé par le piratage de l'agence de presse qatarienne en mai 2017 et la publication de fausses déclarations de l'émir.
Un discours de Cheikh Tamim ou un prétendu discours de Tamim a fuité sur l'agence de presse qatarienne. Il y commentait leur amitié avec l'Iran et parlait, je crois, des frères musulmans. Mais ce discours était un faux.
Des pirates informatiques réussissent à faire publier de fausses déclarations de Tamim Al-Thani, comme celle-ci.
L'Iran constitue une puissance islamique régionale qui ne peut pas être ignorée et qu'il est imprudent de confronter.
L'idée était de mobiliser le public local et régional contre Cheikh Tamim, en l'accusant d'être trop proche de l'Iran et des frères musulmans.
Ces faux discours sont utilisés par l'Arabie Saoudite et ses alliés pour déclencher un embargo. Le 5 juin 2017, un blocus terrestre, aérien et maritime est décrété contre le Qatar. La seule frontière par laquelle transitent les camions qui approvisionnent le pays est fermée. Les avions de la compagnie nationale du Qatar sont interdits de survoler les pays de la coalition saoudienne.
Le blocus nous a pris au dépourvu. Nous ne nous attendions pas du tout à ça.
L'hypothèse des pays voisins était que le Qatar ne pourrait pas le supporter, qu'il n'était pas très résilient et qu'il dépendait de ses voisins pour être approvisionné. Et donc, qu'en l'isolant, cela provoquerait de l'instabilité dans le pays.
L'objectif du blocus, avec tout ce qu'il impliquait au quotidien, était d'affaiblir l'économie du Qatar pour déstabiliser le régime et le faire tomber.
Les Saoudiens réclament entre autres la fermeture d'Al Jazeera et un alignement du Qatar sur leur politique étrangère. Leur espoir était de vassaliser les Al-Thani, voire de les renverser, mais c'est tout l'inverse qui se produit.
وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر.
Qui vous a dit qu'on avait vécu des moments difficiles? Au contraire, l'embargo a été bénéfique. Notre économie a cru, notre peuple s'est renforcé. Nous sommes même plus forts que jamais. Cela a obligé Cheikh Tamim à imaginer de nouvelles voies commerciales, à développer les liens avec l'Iran ou la Turquie, afin d'obtenir les biens dont ils avaient besoin.
Avec sa fortune, le royaume parvient à contourner le blocus en quelques jours. Des milliers de vaches sont importées par avion d'Australie. Des productions de légumes par hydroponie sont lancées. Et les rayons des supermarchés ne manquent de rien. Les avions de la flotte qatarienne au prix de coûteux détours, ramène tout ce dont le pays a besoin.
Avant, nous importions de la nourriture et nous sommes devenus un pays exportateur. Cette expérience nous a apporté beaucoup de positifs.
Nous n'avons pas senti qu'il y avait un blocus. Ça n'a pas affecté nos infrastructures. Ni l'aéroport, ni le port, ni les métros n'avaient une minute de retard. Rien.
Nous étions tous unis.
Ces événements ont fait de Cheikh Tamim une icône nationale. Durant le blocus, on a vu ce célèbre dessin partout, baptisé Tamim triomphant. C'est devenu une figure quasi mythologique pendant le blocus, car le Qatar a eu une attitude très pragmatique.
À la recherche d'appui en Occident, les Al Thani se tournent vers les Européens. Thank you.